aujourd'hui tu devais donner une définition de la beauté?
Ce serait très compliqué parce qu'en fait, elle, pour moi, elle se trouve dans des choses très simples et des choses très complexes aussi. Des choses élaborées qui ont été le fruit d'une pensée, d'un travail, d'une création. Et en même temps, des choses simples comme des choses de la nature. Je suis assez, avec le temps, alors que je ne l'étais pas du tout quand j'étais jeune, je suis devenu très contemplatif. Je peux m'émerveiller, trouver des choses très belles qui ont été pendant des années sous mes yeux et sur lesquelles je ne portais aucune attention et qui aujourd'hui me ravissent par leur couleur, leur courbe, leur luminosité ou leur ombre. Je trouve que la vie et le monde est extraordinaire. Et aujourd'hui, par exemple, je peux m'émerveiller en voyant de mes propres yeux certains paysages ou en regardant certains documentaires. Je fous des documentaires et je me dis des fois, en regardant les documentaires, je dis, c'est pas possible, c'est trop beau. Comment ça a été créé? Comment ça a été... c'est un architecte incroyable qui a créé ces choses magnifiques. Je vois la beauté dans toutes choses, y compris des fois où des gens sont repoussés par certains aspects du vivant, ou certains animaux, ou certains qui me plaisent et qui je trouve beau aussi, malgré tout.
En cette période compliquée, sachant qu'on est confiné depuis plus d'un mois, est-ce que ta vision de la beauté a changé?
Je pense que c'est pas ma vision de la beauté, je pense qu'elle est restée, elle a changé avec l'âge, il y a quelques années de ça, mais on va dire qu'elle est exacerbée. Vu qu'on est limité dans nos activités, dans la possibilité de bouger, de rencontrer des gens, de voir, je sais pas moi, des films au cinéma ou des expositions ou de voyager, forcément, on a un appétit qui s'aiguise et on se raccroche à des choses, mais encore plus simples que d'habitude. Je parlais des documentaires. Ce matin, je me suis levé assez tôt. Je regardais un documentaire sur Madagascar et avec il y a des sortes de pitons rocheux. Et dans ces pitons rocheux qui ont été sculptés par l'érosion, il y a des vallées avec des plantes et des animaux endémiques. Je me disais, mais c'est incroyable, c'est-à-dire d'une vallée à une autre, il peut ne pas y avoir les mêmes animaux à 100 mètres d'écart. C'est tout simplement fabuleux. Donc ce matin, je me suis réveillé avec des belles images d'oiseaux, d'animaux, de lémuriens. Ouais.
Est-ce que tu fais une différence entre la beauté et le beau?
Peut-être si je mettais une frontière entre les deux, je dirais que le beau, pour moi, ça évoque quelque chose justement qui relève de la fabrication humaine, de l'intervention humaine. Le beau, on a organisé les choses pour que ce soit beau, on a peint quelque chose pour que ce soit beau, on a illuminé quelque chose pour que ce soit beau, on a travaillé un morceau pour qu'il soit beau. La beauté, c'est plus quelque chose qui est brut, naturel, qui est sans intervention humaine. Et je suis plus ému par la beauté que par le beau, à la base. Mais pour moi, parce que le beau découle de la beauté. C'est parce que très souvent, les expériences humaines et les interventions humaines, elles s'inspirent de ce qu'il y a dans la nature. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu des magnifiques combats orchestrés de kung-fu ou de démonstrations d'arts martiaux. Toutes ces démonstrations et ce ballet-là, il est inspiré essentiellement de l'observation de la nature et particulièrement des animaux. Des grues, des aigles, des ours, des tigres. Tu vois toujours, après, quand l'homme récupère les choses et crée sa version de la beauté, mais sur laquelle il amène sa patte, il y a toujours la beauté brute, naturelle, du vivant, ou du non-vivant d'ailleurs. Hein. Il y a des choses qui sont non-vivantes, qui sont très belles aussi. Hein.
Je sais que quand tu étais enfant, tu as lu une encyclopédie de A à Z. Tu étais à la recherche de quoi?
Je pense que j'étais à la recherche de... Alors, je l'aurais pas dit à l'époque, mais je pense que j'étais à la recherche de pourquoi on est là. J'ai toujours pas trouvé la réponse. Mais je voulais connaître le passé, je voulais connaître le lointain passé, je voulais connaître l'organisation de l'univers, et c'est toujours des choses qui me fascinent. Après, par contre, ces lectures-là, à 8 ans, elles m'ont permis très tôt de me redimensionner justement dans cet univers et d'avoir une vision de la vie qui est particulière. C'est-à-dire que j'aime la vie, je trouve que c'est fantastique, mais la mort ne m'effraie pas plus que ça.
C'est grâce à ce que tu as pu apprendre au cours de ta vie ou grâce à ce que tu as pu ressentir?
Je pense les deux, je pense en étant en contact malheureusement avec le départ de mon père, avec ma mère qui a été malade pendant des années, mais aussi en étant jeune, en étant à New York et en ayant une expérience de la vie particulière et le fait de perdre plein d'amis, d'avoir vu des choses très dures, comme c'est parce que New York dans les années 80 c'était comme un pays en guerre. Et ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Et maintenant, justement, je mets l'axe du temps toujours en dessous de tout ce que je fais. Et par exemple, quand il est arrivé le confinement et l'épidémie du coronavirus, bizarrement, j'ai pas râlé sur beaucoup de choses, j'ai râlé sur le temps. Je dis, ah, mais j'ai 52 ans bientôt, je suis en train de fumer une année à rester enfermé à la maison. Il y aurait tant de choses à faire. Et en fait, cette soif de vivre et cette soif de découvrir les choses, c'est venu avec les années et la conscience que le temps, c'est quelque chose qui nous est donné, mais qui nous est repris aussi.
Tout à l'heure, je t'ai demandé quelle était ta définition de la beauté aujourd'hui. C'était quoi ta définition quand tu étais enfant?
Je pense que quand j'étais enfant, c'était à travers mes passions. La beauté pour moi, c'était peut-être des vestiges. J'ai passé mon enfance à être fasciné pour les ruines égyptiennes, romaines, grecques, tous les vestiges, peut-être même chinoises. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand je vois le temple d'Angkor Wat, ou que je vais à la vallée des temples dans le sud de la Sicile, ou quand j'ai eu la chance, alors, la chance extraordinaire, d'avoir le temple de Karnak qui s'ouvre que pour nous, une heure avant tous les touristes, on a eu la chance d'avoir beaucoup de scientifiques qui travaillaient là-bas étaient français. Avec les autorités égyptiennes, les autorités touristiques, et notamment Zaïa Awas qui s'occupe des vestiges, ils nous ont autorisés à y aller très tôt le matin. Je me suis assis entre l'enfilade de colonnes à Karnak et j'ai regardé le soleil se lever au milieu des colonnes. J'ai la photo encore. Le soleil s'est levé exactement au milieu des colonnes. C'était magnifique. Et pour moi, quand j'étais petit, c'était ça la beauté. Comment l'homme a réussi à faire des choses si belles?
C'est marrant que tu n'évoques pas ton concert au pied des pyramides avec Ayam, qui a dû être un moment d'une extrême beauté.
Oui, mais c'était d'une extrême beauté parce qu'il y avait les pyramides qui étaient extrêmement belles derrière. Et pour tout ce que ça représentait, je pense que j'étais plus ému par le fait d'avoir plaisanté en étant jeune en disant, ah oui, quand on sera plus âgé, on ira faire un concert au pied des pyramides, c'est notre rêve. Et on rigolait. On était des gamins, on ne savait même pas que ça pourrait se réaliser un jour. Et quand ça s'est réalisé, c'était plus l'émotion de ce cycle-là qui était bouclé. Et après, deux, trois fois, j'ai dit souvent, mais je me suis retourné et j'ai vu les pyramides et les vestiges derrière. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on n'y est pas, c'est pas vrai. On était à la fois émerveillés, écrasés par le décor. C'était superbe. Alors pour moi, ça reste un des plus beaux souvenirs en concert, hein, vraiment. Le concert au pied des pyramides, c'est quelque chose qui est magnifique.
Tu dis que tu es devenu contemplatif, mais quand on t'écoute, tu l'as toujours été.
Oui, mais alors, au niveau où je suis maintenant, je le suis devenu. J'ai cette anecdote souvent. J'ai la chance d'aller un été à Ouarzazate, dans le sud du Maroc, Zazate, c'est une ville qui a en altitude, elle a 1200 mètres d'altitude, et il y a très peu de pollution tout court, hein, ni lumineuse, ni de pollution, hein, par des gaz. Le soir, je prenais une chaise et mes enfants se foutaient de moi, parce que je restais assis sur la chaise et je regardais le ciel. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où je peux voir la Voie lactée. Je voyais un trait blanc au milieu du ciel avec les étoiles. J'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie. Et je pouvais rester 2, 3 heures à regarder le ciel. Et c'est vrai que je peux m'attarder sur des choses qui peut-être émeuvent pas d'autres personnes. Ou des fois, quand je suis avec le groupe, les autres, ça les fait rigoler. Ou je parle des teintes de bleu du ciel qui, dans des pays où on va, qui sont pas exactement les mêmes que chez nous. Je dis, ah, c'est pas le même bleu. Et les autres se foutent de ma gueule. Ils regardent et font, ah ouais, effectivement, c'est pas le même bleu. Et ils sont morts de rire. Bon, après, c'est mon truc. J'ai ce petit côté-là un peu qui est, mais qui me va très bien, qui me permet de souffler, de faire des pauses comme ça, regarder des choses. Je trouve ça très bien.
C'est trop important, le temps, pour toi.
Le temps, c'est important. Si j'ai du temps, je préfère faire du sport, je préfère faire de la musique, je préfère être créatif ou voir des beaux documentaires ou des séries. Il y a des séries qui sont monstrueuses. Voilà, et c'est vrai qu'avec le confinement, j'ai appris à gérer un peu plus le temps. Et je me suis dit, ah, les journées elles vont être très longues. C'est faux. Les journées sont très rapides. J'ai à peine le temps de me retourner. La journée est déjà terminée. Donc, comme quoi, quand on s'occupe un temps soit peu, le temps passe vite.
Et on peut très bien le passer loin des réseaux sociaux.
On peut le passer très loin des réseaux sociaux. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux. C'est la maison de disques qui s'occupe parce qu'on l'utilise pour des fins promotionnelles. Après, on peut passer des messages à travers les réseaux sociaux, mais je ressens pas la nécessité de faire la photo de mes chiottes ou de mon repas de midi. Hein. C'est pas. À la limite, si je fais un repas, si je cuisine, j'adore cuisiner, j'envoie à mes amis. Mes amis, ceux avec qui je discute tous les jours, pas mes amis. Voilà. À la limite, un réseau social, si je pouvais être sûr d'avoir que les personnes que j'aime et que j'apprécie, je suis très Rital sur ça. J'ai l'impression qu'on envahit mon intimité. C'est un truc qui me plaît pas du tout. Mais pas du tout. J'ai l'impression d'avoir plein de snitch et d'espions sur mon dos. Je suis pas parano, mais les réseaux sociaux. Écoute, tu sais, même les criminels devraient réfléchir à ça. Il y a des tas d'enquêtes aujourd'hui qui sont résolues grâce à Facebook et Instagram. Donc c'est la preuve que c'est quand même une source d'information, j'ai rien à cacher. Mais par contre, si je partage des repas, des moments avec ma famille ou des photos ou des trucs, j'ai pas envie que tout le monde les voit, ça m'intéresse absolument pas.
En fait, toi, tu ne communiques que qu'en tant qu'artiste et tout ce que tu as à dire, ça passe par ta musique.
Exactement, ça passe par ma musique et quand on fait des trucs avec le groupe, c'est une autre personne du groupe qui s'occupe d'Instagram, c'est Keops. Et chaque fois qu'il prend des photos, il dit je peux mettre ça, ouais, pas de problème, il a l'aval de tout le monde. Donc en fait, c'est vraiment une communication qui a trait à notre musique. Mais moi, personnellement, si je parle à travers mes morceaux. Si je m'exprime des fois même sur des interviews, et des interviews sur des sujets délicats que je refuse de faire parce que. Je pense que c'est plus intéressant d'écrire un morceau dessus et de le dire de manière poétique.
Parlant de la poésie, c'est bien que tu fasses cette transition. Quand est-ce que tu as été, je vais dire, touché, séduit par la beauté du verbe?
Très jeune. Très jeune parce que j'ai lu beaucoup, très jeune, et je me souviens des poésies de Verlaine qu'on étudiait en école primaire des vers comme heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers des champs lumineux et sereins. Et ces phrases-là sont restées dans ma tête depuis que j'ai 9 ans. Et je me suis dit, mais avec les mots, on peut faire des choses incroyables. Et j'aime le mot pour la sonorité qu'il a. Parce que la sonorité d'un mot est très importante dans le rap. Il y a des mots qui sont doux. Et comme des sortes de lasso, de nœuds coulants, et il y a des mots qui sont percussifs comme des tambours. Enfin, voilà, je les classe en plusieurs catégories. Il y a des mots pour des tas de choses différentes. Quand on est sur des P, des B, des sonorités comme ça, on est vraiment dans la percussion. Quand on va faire du rap plus percussif ou plus qui bouge un peu plus, on utilise ce genre de mots-là.
Et la poésie, ça t'a tenté d'en faire Je veux dire sans qu'elle n'ait de résonance sonore,
Voilà.
musicale.
Alors, en fait, j'ai encore plus de facilité à écrire de la poésie parce que le rap, c'est une vraie astreinte. Tu as une astreinte de temps, tu as une astreinte de son et tu as une astreinte de sens. Dans la poésie, tu as une astreinte de sens. Donc, j'écris pas mal de choses et il y en a certains même que j'ai adapté en musique, qui sont pas sortis, mais que j'ai adapté par la suite en musique. Il y a des passerelles entre les deux, c'est assez simple de passer de l'un à l'autre.
Et la passerelle vers l'image, puisque tu as aussi réalisé clip et film.
La passerelle vers l'image, je pense que c'est quand on veut souligner quelque chose qu'on dit avec l'oralité. Je pense qu'au départ, c'est la passion de certains films et de certains. Le cinéma, c'est un truc de fan. J'étais fan de Sergio Leone, j'étais fan de. Du bon, La Brute et le Truand, le premier film que j'ai vu de ma vie, c'était Il était une fois dans l'Ouest, il m'a marqué. C'était un sacré film sur la mafia, en fait. Hein. Quand on regarde bien, Sergio Leone a traité un problème italien à travers l'Ouest américain, mais Lello Manto, c'est ni plus ni moins que la mafia qui vient exproprier les gens qui sont sur le tracé du train, et rien n'a changé encore. Par contre, les patrons du train, ce sont pas la mafia, ce sont les grands industriels. Et c'est ce même rapport-là. Il y a la mafia qui va en prison et la mafia qui n'y va pas.
Si on parle du film comme un aimant,
Oui.
on pourrait se dire quoi? C'est beau une ville la nuit, c'est beau une jeunesse, c'est beau la vie, c'est quoi?
Je pense que c'est beau la vie, mais en même temps, il y a des épisodes de la jeunesse qui sont très durs, qu'on a voulu relater dans ce film-là, qui est pas complètement négatif, mais qui est une sorte de mosaïque et d'histoire vraie. Et on a voulu surtout se raconter avec Kamel Salé dans ce film.
Pourquoi tu n'as pas réitéré l'exercice?
J'ai fait un film qui est pour France Télévisions avec Leila Bekti, Omar Sy, Nicolas Cazalet, Oxmo, Marie Guillard, Rudy Zem. Il y a plein d'acteurs et actrices sympas. Je l'ai fait en 2008, il s'appelle Conte de la frustration. Et j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse de la comédie musicale. J'ai écrit les morceaux. Et après, la caméra joue ce que le morceau raconte, en fait. Ça s'appelle Conte de la frustration. Il y a 14 titres où chacun des chanteurs-chanteuses a un acteur-actrice qui le représente dans le film. Et ça m'a été commandé par France Télévisions à l'époque, par une équipe qui est super sympa. Sarkozy est arrivé, il a remplacé tout le monde. Et le film a été diffusé le 8 août à 23h50, je crois, parce que j'étais une sorte de projet un peu de l'équipe ennemie. Donc mes deux passages au cinéma, ça a été des moments douloureux, parce que communément, ça a été compliqué aussi avec Studio Canal, ça a été complexe. Je pense que les contrats qu'ils nous ont fait signer à l'époque, c'était très particulier. Donc j'ai eu deux expériences douloureuses, je ferai des aventures dans le cinéma que si je suis assuré de pouvoir faire ce que je veux, et puis ensuite de pas me retrouver le dindon de la farce, ni escroqué, ni mis dans un placard parce que telle personne a décidé de le diffuser à un horaire qui est complètement différent. C'était une super série qu'ils avaient créée qui s'appelait Identité, et il y avait une dizaine de films qui étaient vraiment des films d'auteur avec d'énormes prises de risque. Je trouvais ça super de la part de France Télévisions de le faire. Parce que c'est le rôle du service public de prendre des risques et de ne pas proposer des programmes qui sont des copies de ce qui se fait sur les télévisions privées. Et malheureusement, ça c'est dans le timing, le temps n'a pas joué en ma faveur ce coup-ci.
Tu prends toujours des risques aujourd'hui?
Prends toujours des risques dans tout ce que je fais. Je trouve que si on ne prend pas de risques et si on se met pas en danger, si on se trahit, c'est un problème. Quand on fait de la musique et qu'on ne prend aucun risque et qu'on essaie de donner des choses aux gens que l'on suppose être ce qu'ils veulent entendre, là ça devient vraiment problématique. Ça fait beaucoup de regrets. Quand les projets ne fonctionnent pas, on se dit, ah mince, pourquoi j'ai façonné le morceau comme ça? Moi, c'est interdit que je fasse des choses comme ça. Je fais toujours la musique qui me plaît. Les copains du groupe IAM, c'est la même chose. On fait la musique qui nous plaît et après on assume et on défend. et on part à la baïonnette sur scène, sauf en ce moment.
Il y a de la beauté dans l'échec?
Il y a de la beauté dans l'échec, sauf que il faut pas le valoriser. En fait, l'échec peut être beau parce qu'il est un enseignement. C'est le plus grand des enseignements, l'échec. La chute, l'échec, parce que ça entraîne toujours un mouvement où on se relève par la suite et où on a appris du moment où on a trébuché. Par contre, valoriser l'échec et le rendre culturel, c'est quelque chose que j'ai toujours, qui m'a rendu insupportable dans la culture française. Et je suis un putain de rital, même quand c'est pas beau, on dit que c'est beau. Et que sur ça, je suis américano-italien, c'est-à-dire que je préfère valoriser même à l'école, dans la manière d'enseigner les choses des professeurs, où on dit à un élève qu'il est nul, je préfère dans des écoles où on dit c'était pas mal, mais la prochaine fois, il va falloir faire mieux. C'est la manière dont je fonctionne. Et la culture de l'échec et la culture de la lose, c'est un truc qui me plaît pas du tout. L'échec est beau, l'instant lui-même est beau, parce que l'appel qu'il fait et la suite, c'est quelque chose qui est admirable.
Ça s'enseigne la beauté.
Je pense pas. Je pense que ce qui s'enseigne, c'est à la discerner, à l'aimer, à l'apprécier. Et que si on calibre un être humain à aimer de la merde, il aimera de la merde. Forcément. La merde, c'est une ligne droite, hein, qui mène. C'est comme le mal. Ça va d'un point A à un point B sans virage. Tout droit. C'est facile. Ça fonctionne bien, c'est super simple. Mais par exemple, l'absence de beauté dans certains programmes télévisés, pour capturer les gens sur d'autres critères, c'est quelque chose que j'accepte peu ou pas. Et je trouve que ça a des conséquences très graves. La combinaison de la télé-réalité et des réseaux sociaux a fait quand même élire un président qui est le président du pays le plus puissant du monde aujourd'hui. C'est pas Donald Trump qui est élu, c'est l'apprenti. C'est le mec qui a fait 12 ou 13 ans de télé-réalité. Parce que les Américains se sont convaincus qu'il était un homme d'affaires incroyable, alors qu'il a presque eu que des faillites dans sa vie. Tu vois, l'emballage est plus important que ce qui est à l'intérieur du carton. Donc la beauté, ça s'apprend, parce que la beauté, elle est à l'intérieur du carton.
Tu dirais que la beauté a besoin de virage?
La beauté, elle a besoin de virage. Elle ne fonctionnera jamais en ligne droite. Elle sera jamais simple. Jamais. Elle est simple, mais la discerner, c'est pas simple. C'est comme pour la musique. Je disais la dernière fois en interview, c'est Bachung qui avait dit ça. Faire simple, c'est compliqué. C'est pareil pour la beauté. Aller toucher ces choses simples, c'est compliqué.
Et une question bateau. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée?
Ah, il y a beaucoup de belles choses qui me sont arrivées. Je déteste faire des classements, mais si je dois faire un classement, c'est la sensation de tenir son enfant dans les mains. Moi, je pense que je n'avais pas réalisé que j'étais père avant d'avoir Yanis, mon premier fils, dans les bras. Et la sensation que ça fait, d'un coup, on se met entre parenthèses et on vit pour quelqu'un d'autre. Et complètement. Et je pense que c'est pareil pour Aïcha, pour ma femme. Ça a été pour nous une révélation et d'une beauté incroyable. C'est des moments fabuleux.
Et la plus belle chose qui pourrait t'arriver aujourd'hui?
La plus belle chose qui pourrait m'arriver, il y en a plein, hein. Hormis le fait encore de reconnaître ça à travers mes enfants et d'être grand-père, mais je pense que j'aurais envie. En fait, tu sais, la seule chose qui me stresse quand je vois les reportages, j'ai cette soif de voir ces choses-là de mes yeux, parce que c'est bien de le voir à la télé, mais de voir de mes yeux, je pense que la plus belle chose serait de prendre 2 ans et d'aller voyager dans plein d'endroits différents et de voir les merveilles du monde de mes yeux. Ça, c'est une chose qui me plairait vraiment.
La contemplation à n'en plus finir.
La contemplation pendant 2 ans, c'est pas mal comme programme.